Allez. Donc, on est dans la paracha Vaïgash, page 272. Dans la paracha Vaïgash, on nous raconte comment Yosef va se dévoiler à ses frères. Et dès que Yosef se dévoile à ses frères, bien sûr, il leur dit, ne vous inquiétez pas, je ne vous en veux pas, c'est pas vous qui m'avez envoyé ici, qui a Elohim, c'est Akadosh Baruch qui m'a envoyé ici, ne soyez pas énervés contre moi, je ne suis pas énervé contre vous. Enfin, il essaye vraiment de les mettre le plus à l'aise possible. Et là, on nous raconte que Yosef dit à ses frères, il leur dit, écoutez, on va s'installer. Allô ?
Je
suis vite là.
On est en face de l'école.
Alors, et donc maintenant, Yosef, il rassure ses frères. Et Yosef leur demande, il leur dit, Maharu va à l'ouel avi. Je vous en prie, faites vite et allez voir mon père pour lui annoncer, la bonne nouvelle. Comme on avait expliqué la semaine dernière, pourquoi faites vite ? Parce que jusqu'à maintenant, les 21 ans, c'était dans le cadre de la punition que Akadosh Baruch Hu devait donner à Yaakov Avinu. Donc c'était sur le compte de Dieu. Mais maintenant que la punition d'Akadosh Baruch Hu est terminée, que les 21 années sont passées, Yosef a dit, je crains chaque seconde qui va passer, je crains que si on ne va pas voir papa tout de suite, de souffrance, il risque de partir. La punition par rapport au fait qu'il avait manqué de kibbutz avim pendant 21 ans lui aussi. D'accord ? Et donc, Yosef a envoyé, des charrettes. D'accord ? Il a envoyé des charrettes. Et c'est là qu'on nous raconte, on dit qu'il leur a donné, donc Yosef a donné les consignes à ses frères. Il leur a dit, Al-Tirgizu Badarer, il leur a dit, quand vous allez prendre la route, n'étudiez pas des paroles de Halakha qui risquent de vous déconcentrer sur la route et vous risquez de vous perdre dans la route. Or, se perdre dans la route, c'est dangereux, surtout à l'époque. Donc il leur a dit, Al-Tirgizu Badarer. Ok. Ensuite, on nous raconte que Yosef a fait passer par ses frères des agalotes. C'est quoi des agalotes en hébreu ? C'est des sortes de poussettes, donc des charrues, d'accord ? Des charrettes avec plein de... C'est raconté que ces charrettes-là transportaient le mieux de ce qui se faisait en Égypte. D'accord ? Le meilleur de ce qui se faisait en Égypte. Ok. Alors, regardez maintenant ce qu'on va dire ensemble. On va prendre le pasouk Ravav. Non, pasouk Rafé, pardon. Vayalou Mimitsraïm. C'est bon ou pas ? Qu'est-ce qui se passe là-bas ?
Hein ? Ils ont aujourd'hui, il y a de la liberté, hein ?
Non, peut-être on peut participer.
Tu veux mettre un livre ?
C'est la proche de vacances. Alors on y va. Tu sais, mais Chané Makom, Chané Mazal.
C'est toujours mieux. On dit en mieux.
Ah, j'ai compris, t'as commencé à l'heure et tu veux l'avoir en entier. Merci. Va au Khatat de notre femme Chakol et Midvaron. Alors, Fasouk Rafé. Vayalou Mimitsraïm. Ils sont venus d'Égypte. Vayavou Eretz Kenan et Yaakov Aviam. Ils sont venus en terre de Kenan chez Yaakov leur père. Vayagidoulou les morts, Od Yosef Rai. Ils ont passé le message à Yaakov en disant Yosef est encore vivant. Vechi ou Moshel Bechol Eretz Mitsraïm. Et comme quoi, Yosef est maintenant le gouverneur d'Eretz Israël. De l'Égypte, pardon. Vayafog Libo, d'accord, Vayafog Libo, son cœur s'est détourné, le cœur de Yaakov s'est détourné, ça veut dire qu'il n'y croyait pas, pourquoi, d'accord, Kilo et Emin Lahem, c'était trop dur pour lui pour y croire, c'était trop fort, donc il n'a pas cru. Alors ils ont essayé de convaincre leur père que c'est vrai, parce qu'on te dit c'est vrai, Yosef est en vie. Ils ont cru, mais les Midrashim ils disent que Yaakov, il s'est dit peut-être que je perds la tête, peut-être que je comprends pas ce qu'on raconte, je commence à être vieux, je commence à croire que mes enfants vont revenir, je commence, vous savez, des fois les personnes âgées c'est un grand problème ça. Alors, là, donc Yaakov se dit c'est pas possible, il y a un problème, je suis en train de devenir fou.
Ouais, c'est trop fort.
C'est trop fort pour être vrai. Vaïdabrou, Elab, et Kol Divrei Yosef, Asher Diber Aleham. Ils ont essayé de lui dire, mais attends, tu sais, on était chez Yosef, et Yosef nous a dit ci, il nous a dit ça, il nous a donné tout ça, ils essayent de lui raconter. Mais apparemment, ça n'a toujours pas convaincu Yaakov. Alors attends, attendez, on y arrive. Pourquoi on n'y croit pas ? Selon le Midrash, une des raisons pourquoi il n'y croit pas, c'est parce que Yaakov se dit, excusez-moi aujourd'hui, c'est pas possible que mon fils peut être dans une position tellement élevée en Égypte, qui est la terre de la Touma, c'est pas possible qu'il ait eu cette position. Donc Yaakov n'y croyait pas, c'est-à-dire ni il y croyait de retrouver son fils, mais surtout, pour lui, c'était inconcevable que son fils est tellement haut en Égypte et qu'il est resté Yosef son fils. Et qu'on a pu le reconnaître en tant que Yosef Hatzadik. C'était inconcevable.
Et puis même, il était persuadé qu'il était décédé.
D'accord. Il avait un doute. D'accord. C'est pourquoi il a un doute. Parce qu'on dit normalement, Rachid, ça, il dit que normalement, Yaakov a compris la chose au bout d'un an de deuil. Parce que normalement, Au bout d'un an de deuil, on oublie la personne qu'on a perdue.
Et là, il n'oubliait pas.
Et là, il n'oubliait pas. Donc, il a compris qu'il y a quelque chose qui tournait pas rond. Mais il ne savait pas quoi. Il s'est dit, c'est pas normal que je garde la souffrance pendant 21 ans. Ok. Donc, en tout cas, Yosef ne croyait pas à ce qu'on lui racontait. Yaakov, pardon, ne croyait pas à ce qu'on lui racontait. D'accord ? Ne croyait pas à ce qu'on lui racontait. Et donc, les frères étaient embêtés. Comment convaincre Yaakov ? Et là, on nous raconte, voilà le point que vous avez dit. Vayata galot, a cherché alors Yosef à cette auto, vatechi, ruach Yaakov avien. Quel était le point qui a réussi à convaincre Yaakov ? Yaakov a vu les charrettes que Yosef avait envoyées pour le ramener. Parce que Yosef a dit comme ça, il a dit, les charrettes vont servir à ramener des bonnes choses, et avec les charrettes, une fois que vous les avez vidées, comme ça il amortit l'aller et le retour, pour le retour, vous allez déménager, toutes vos affaires, vous les amenez. Et là, on nous raconte que quand Yaakov a vu ça, Vatechi, Ruach Yaakov Aviem, l'esprit de Yaakov a revécu. Donc, on va s'arrêter sur deux points. D'abord, c'est quoi ces charrettes? D'accord? Je suppose que beaucoup d'entre vous connaissent l'explication de Rashi, vous allez voir qu'aujourd'hui, on va la comprendre autrement.
C'est une idée de parents.
C'est
une idée de parents.
D'envoyer les charrettes?
Ouais. Non.
Non.
C'est l'initiative de Yaakov.
Non, mais commentaire là-dessus, comme quoi?
C'est une idée de parents, mais il a demandé l'autorisation.
Non, il a pas dit les charrettes. Il a dit, allez chercher cadeaux. Il a dit d'aller amener les cadeaux. D'accord? Il a dit, va voir tes parents et tu leur dis de prendre tout leur bétail et tout ce qu'ils ont, de venir ici. Mais il a pas dit, c'est pas lui qui a donné l'idée des charrettes. Les charrettes, on va voir ça.
Il se doutait que le père pourrait ne pas y croire.
Alors, on va voir ce que Rashi va expliquer. Donc il y a deux choses qu'on veut expliquer ici. Premièrement, pourquoi les charrettes? Qu'est-ce que ça représente les charrettes? Pourquoi ça a été un élément déterminant? Oui. Pourquoi c'était un élément déterminant? C'est-à-dire, on lui a tout raconté, il n'y croyait pas. Et il y a eu un élément déterminant, c'est les charrettes. Pourquoi? Et on va essayer de comprendre aussi pourquoi, à partir de ce moment-là, Vatechi Ruach Yaakov Aviem, Yaakov a revécu. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors on y va dans Rashi. D'accord? On va voir dans Rashi. Alors, Et Kol Divrei Yosef, on va prendre le Passouk Rav Zayin, colonne de gauche. On raconte qu'ils lui ont raconté toutes les paroles de Yosef. Qu'est-ce qu'ils ont raconté? Siman Masar Lahem. En vérité, Yosef, comme vous avez dit Chazak, Yosef se doutait que son père n'allait pas y croire. Et donc il leur a dit, il faut que je vous donne un signe qu'il n'y a que lui et moi qui connaissons. Comme ça, il sera obligé de vous croire. Quel siman il leur a donné? Il leur a dit comme ça. Bema ayaosek shepiresh menu. Pourquoi il leur a fait passer des charrettes? Il leur a dit, vous allez dire à papa que juste avant que je parte, la halakha qu'on était en train d'étudier, c'était quoi? C'était la halakha de la egla aruf. Alors, il y a un jeu de mots ici en hébreu. Parce que agala en hébreu, ça veut dire une charrette. Et egla, c'est les mêmes lettres, d'accord? Egla, c'est la genisse. Vous connaissez la loi de la Egla Rufa, quand on trouve entre deux villes, dans le champ, on trouve une personne qui est morte, on ne sait pas qui l'a tué, on doit chercher les anciens qui sont de la ville la plus proche, donc on doit calculer, etc., pour être très, très précis, et après on devra couper la tête d'une génisse sur l'endroit où on a trouvé le mort. Alors, les halakhot que Yaakov Avinu a enseigné à son fils, juste avant de partir, donc 21 ans en arrière, c'était la halakhot de Egla Arufa. Et donc, Rachid explique ici que, en vérité, Yosef a donné un siman à ses frères. Il leur a dit, je sais que papa ne va pas y croire, donc vous allez lui donner un siman, il n'y a que lui et moi qui savons ce que je vais vous dire. La dernière halakha qu'on a étudiée avant de partir, c'était la halakhot de Egla Arufa. Et en tant que preuve, je vous envoie des agalotes. Egla, agalotes. Voilà mon signe. Et ça, Yaakov va comprendre qu'il y a un problème, parce que ça, il n'y a personne qui peut le savoir à part moi. Donc, ça va être le signe qui va nous permettre de croire. Mais parachat egla arufa, veze ou chez Nehemar. Et Rachid te dit, voilà pourquoi c'est écrit. Va yaret agalot à cherchalach Yosef. Voilà pourquoi c'est écrit qu'il a vu les agalotes que Yosef a envoyées. Techniquement, qui c'est qui a envoyé les agalotes? C'est Paro. C'est pas Paro qui a donné le conseil. Paro a dit d'envoyer. Mais concrètement, qui c'est qui a payé? Qui c'est qui a payé la facture de tout ce qu'on a envoyé? C'est Paro. Après, c'est écrit les agalotes que Yosef a envoyées. Parce qu'en vérité, le plus important ici, c'est pas ce qu'il y avait dans la galotte, hein, on n'a rien à faire ce qu'il y avait dedans. Ce qu'il y avait, le plus important, c'est le siman de la galotte, et c'est pour ça, que Vatechi, Ruach Yaakov, que l'esprit de Yaakov a revécu, ça veut dire quoi, nous dit Rashi? Sharta alav shrina shepersha mimenu. Extraordinaire. Pendant 21 ans, Dieu n'a pas rendu la shrina, Dieu ne s'est dévoilé jamais à Yaakov, parce qu'il savait que dès qu'il se dévoilait à lui, forcément il aurait su qu'il était vivant. Donc pendant 21 ans, la Shrina n'a pas résidé sur Yaakov Avinu. Parce que, tout simplement, on ne peut pas lui donner accès pendant 21 ans.
Encore c'est 21
D'accord. Et là on nous dit, Vatechi Roach Yaakov Aviem. Yaakov a revécu. Tout le monde a compris qu'est-ce qu'il a dit. Pourquoi il a revécu? Parce qu'il a revu son fils. Parce qu'il sait que son fils est vivant. Non. Quand on dit qu'il a revécu, c'est comme un starter. Ça veut dire qu'il a eu, la prophétie qui lui est revenue. Il a eu la Shrina qui est revenue. Et là il a compris. Là il a commencé, il a tout compris ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui fait qu'un tzadik est un tzadik? C'est qu'il a la Shrina et qu'il comprend les événements. Pendant 21 ans, il ne comprenait pas les événements. Or, il n'y a rien de pire pour une personne que de ne pas comprendre ce qui se passe. Et vous savez, des fois, tu as un événement qui peut durer des années, des événements très douloureux, et à un moment, tu comprends. Et quand tu comprends, automatiquement, tout devient plus facile. Ça vous est déjà arrivé? C'est pas des choses qu'on ne comprend pas.
Des fois, il vaut mieux pas comprendre.
C'est vrai, d'accord. Mais des fois, le fait de comprendre... Moi, je ne suis pas d'accord avec vous, excusez-moi. En général, le fait de comprendre, ça nous aide à mieux supporter la souffrance. Pourtant, la souffrance reste la même. Le problème n'est pas arrangé. Mais quand on comprend ce qui se passe, c'est beaucoup plus facile. Donc, Yaakov Avinu, en une seconde, il a eu comme ça la Shrina qui est revenue, et il a eu un flash, il a compris tout ce qui s'est passé. Et quand il a compris tout ce qui s'est passé, automatiquement, il a revécu, automatiquement, tout allait bien. Ça, c'est Rashi. Je suppose que ce pchat de Rashi, vous le connaissez, beaucoup le connaissent déjà. Maintenant, on va essayer d'aller plus loin. D'accord? Très connu. Agala, Egla, le jeu de mots, bon, tout ça, c'est connu. Maintenant, on va essayer, et là, c'était simplement pour... voilà, on nous a pris 10 minutes juste pour se mettre dans le bain. Non, rien à
voir.
Juste après, on dit, va Yomer Israël. Si vous me laissez le temps, j'y arriverai sur ça aussi. Pourquoi Yaakov et Israël?
D'accord. D'accord.
Ok. Alors j'y vais. Maintenant, ce que je voudrais commenter, c'est pas par hasard. Si on nous raconte que la dernière paracha, que Yaakov Hatzadik, d'accord, que Yaakov Avinu a enseigné à son fils Yosef Hatzadik, était la paracha de la Egla Arufa, et que le siman que Yosef envoyait à son père, c'est la paracha de la Egla Arufa, ça veut dire qu'on a un siman autour de cette paracha, et que la Egla Arufa est un siman qui va nous permettre de comprendre ce qui s'est passé. J'explique ce que je veux dire. Quand on lit le pshat dans Rashi, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que apparemment Yosef fait passer un siman à son père qu'il est vivant, mais que il lui dit de quoi on a parlé avant de partir. Mais on pense qu'il aurait pu lui parler de n'importe quoi. On a parlé de l'aigle Arufa, mais si par exemple on avait parlé d'Alachod et Tefilin, ça aurait pu être bon aussi. Hein? Si par exemple Yosef Hatzadik avait dit, écoutez, les dernières alachas qu'on a appris avant de partir, c'était l'Alachod et Tefilin, et qu'effectivement c'est le cas, ça aurait pu marcher. Mais c'est pas le cas. Quand on lit les Midrashim, on voit que Yaakov a accordé une importance particulière sur le fait que la dernière paracha qu'ils ont utilisée, c'est la paracha de la Egla Arufa. C'est-à-dire, c'est pas juste un message, tu lui diras ce qu'on a appris, la dernière chose qu'on a appris. C'est pas un hasard si on parle de la paracha d'Egla Arufa. Pourquoi la paracha d'Egla Arufa? Ça, Rashi ne le dit pas. Et ça, on va essayer de commenter.
D'accord?
Voilà, ça rit. Voilà,
pourquoi? Bah oui, je vous avais dit au début, c'est Rashi. Pourquoi? Pourquoi? Vous prenez la question?
Ouais,
pourquoi c'est la dernière chose qu'ils ont étudiée?
Pourquoi d'accord c'est là et pas une autre paracha et pas une autre minute?
Parce qu'a priori, alors, d'abord, il y a une chose à comprendre. D'accord? Avant même de commencer. Pourquoi Yaakov est content quand il apprend que son fils est vivant? Pas seulement parce qu'il apprend que son fils est vivant, nous dit le Midrashim, parce qu'il apprend qu'il est resté toujours religieux, sadique. Donc il y a deux choses. D'accord? Yaakov se pose deux questions. Est-ce que mon fils est vivant? Et s'il est vivant, est-ce qu'il est toujours resté mon fils? D'accord? Est-ce qu'il se comporte toujours comme doit se comporter mon fils? Quelle réponse il reçoit? A priori, oui. D'accord? Il est vivant, Baruch HaShem, et a priori, il aura parlé des halachot, donc a priori, il est encore dans le coup. Baruch HaShem. Mais, la halacha qu'il leur envoie, c'est la Egla Arufa. Et il leur donne en détail les halachot. Pas juste il leur a dit, vous savez, on a parlé de ça. Il leur a donné les halachot de la Egla Arufa. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans la Egla Arufa? Alors on y va. C'est quoi la halacha de la Egla Arufa? Tout à l'heure, on a dit que quand on trouve une personne qui est décédée et qu'on ne sait pas l'onoda mikaou, on ne sait pas qui l'a frappé, ça veut dire qu'on ne trouve pas ici le meurtrier. Qu'est-ce qu'on doit faire?
Et qu'il est entre deux villes.
Forcément, il est entre deux villes.
Et aussi.
Et qu'on sait pas.
Forcément, il est entre deux villes.
Et ça vous fait
laver les mains.
À n'importe quel point donné, t'es entre deux villes.
Mais non, tu pourrais être dans une ville. Oui, mais il est pas plus proche de la ville que de l'autre.
Justement.
On peut savoir d'où il est.
À n'importe quel point donné de la terre, t'es entre deux villes.
Non.
On a cherché la ville la plus proche.
Mais non. À un point donné, tu peux être dans la ville.
Ah d'accord. Il est dans le champ. Alors.
Il est dans le champ.
En dehors de la ville.
Il
faut ne pas
connaître.
Donc. Non. On doit savoir, on ne sait pas d'où il est. D'accord ? On ne sait pas d'où il est, on ne sait pas qui l'a frappé, on ne sait pas qui c'est.
Non mais il peut être mort.
Qu'est-ce que te dit le pasouk ?
Je manque d'aide.
Très bien. Alors justement, le pasouk te dit, dans ce cas-là, on va calculer avec un fil. C'est très important ce que je dis, explique ici, écoutez bien les détails. On va calculer avec un fil pour voir quelle est la ville la plus proche, c'est-à-dire c'est un travail de précision. On va trouver la ville la plus proche, on va amener les anciens et les juges. Écoutez bien les détails parce que je reviens dessus tout de suite. Il ne faut pas perdre les détails. On va ramener les anciens et les juges de cette ville, d'accord ? C'est la plus proche. Et les juges et les anciens de cette ville vont venir, ils vont couper la tête d'une jeunisse à côté donc de cet endroit, et ils vont dire, Yadenu le chafrou et tatamazé, ils vont dire, nos mains n'ont pas versé ce sang. Maintenant, on a un commentaire très important du Rabbeinu Bechaye. Voilà, Rabbeinu Bechaye en parlait. Rabbeinu Bechaye, il dit comme ça. Il dit, pourquoi on fait tout ça? Pourquoi on fait tellement de publicité autour de ça? On aurait pu faire discrètement. Quand on lit dans la Torah, on a l'impression qu'on fait de la pub. Pourquoi on fait de la pub? Rabbeinu Bechaye t'explique un pirouche très important. Il te dit qu'un des buts de toute cette action, de chercher avec le fil, etc. et tout, d'accord? C'est de chercher, c'est que peut-être on va trouver grâce à ça l'assassin. Parce qu'on sait très bien que des fois, quand on fait de la publicité, voilà comme il y a eu hier avec le nourrisson, d'accord, alerte enlèvement.
Un peu la même chose que pour les objets perdus. Tu dois faire de la publicité.
Ils l'ont retrouvé, c'est ça? On m'a dit qu'ils l'ont retrouvé, d'accord? Donc, plus on fait de la publicité. Il y avait la publicité, d'accord? Donc plus on fait de la publicité et plus on va retrouver. Ça veut dire quoi? Faut pas qu'on perde le fil. Ça veut dire que le but pour lequel on fait toute cette publicité, c'est pour trouver le meurtrier. Maintenant, écoutez bien comment le rabbi explique. Il dit, on va expliquer maintenant, Avodat Hashem, dans le service de Dieu, qu'est-ce que représente la paracha de la Glaroufa. C'est magnifique. Il dit comme ça. Il dit, on a trouvé, ki matse halal ba adama. C'est quoi la paracha? On va reprendre mot par mot la paracha. Elle te dit, quand on va trouver un halal, ça veut dire un mort, ba adama dans la terre. C'est quoi un halal? Halal en hébreu, ça veut dire quoi? Halal en hébreu, ça veut dire un mort, mais ça veut dire aussi quelqu'un qui est vide. Spirituellement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, exactement, halal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a ici une personne qui s'est éloignée de la Torah. Vous suivez? Halal, c'est une personne qui est vide, qui s'est éloignée de la Torah. Cette personne-là, le pasuk nous dit, il est nofel bassadé, il est tombé dans le champ. C'est quoi le champ? Qui était dans la paracha il n'y a pas longtemps un homme des champs? C'est qui l'homme des champs? Esav. Qui m'a fait halal? Quand on va trouver un homme qui est vide, d'accord? Pourquoi il est vide? Ça veut dire quoi qu'il est vide? Il est vide de Torah. Pourquoi il est vide de Torah? Nofel bassadé, il est tombé à cause de Esav, il est tombé à cause des problèmes de ce monti. L'onoda miikaou. Mais il est tombé tellement bas qu'on ne sait même plus si c'est de la faute de son entourage, si c'est de sa faute, si c'est de la faute de ses amis, si c'est de la faute de ses ennemis. Ce qu'on sait, c'est qu'on a un juif maintenant qui est loin du chemin de la Torah et qui est mort, spirituellement. Mort spirituellement, ça veut dire qu'il est loin d'Akadosh Baruch Hu. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que te dit le pasouk? Le pasouk te dit, on va chercher la ville qui est le plus proche. Et on va appeler Ziknecha Veshoftecha. On va pas chercher pour amener quelqu'un à la Torah. On va pas chercher. On va dire, bon, écoute, toutes les façons, tu vas lui apprendre le Aleph Bet. Apprends-lui Aleph Bet. N'importe qui peut lui apprendre. Alors, on va pas déranger un grand rabbin pour ça. On dit non. Que te dit le pasouk? Ve'amdu Zeknecha Veshoftecha. On va prendre les personnes les plus anciens, c'est-à-dire les plus grands amis des Chachamim, et les juges. On sait que dans un tribunal, tout à l'heure, on parlait des avocats. Quel est le poste le plus haut? C'est le juge. Et dans un Bet Amidrash, quel est le poste le plus haut? C'est le Zaken, c'est l'ancien. L'ancien, c'est celui qui est Zeshekana Chorma. C'est pas l'ancien en âge, c'est l'ancien en Chorma. C'est celui qui a le plus de Chorma. Et ben, on te dit, pour amener quelqu'un à la Torah, Ve'amdu Zekenecha Ve'shoftecha vont se lever. Sous-entendu, c'est des gens qui restent toujours à leur place, parce que c'est des gens qui ont un poste qui fait qu'ils doivent rester à leur place. Ces gens-là, Zekenecha Ve'shoftecha, c'est eux qui vont se déplacer pour aller chercher cette personne et le ramener à la Torah. Qu'est-ce qu'ils vont dire, ces gens-là? Ça, c'est le Rashi qui dit, dans la paracha là-bas. Il te dit, ces gens-là vont dire, ils vont faire un vidouille, ils vont faire une confession. Ils vont dire, que ça veut dire quoi quand nos mains n'ont pas versé ce sang? La Gemara Sanhedrin pose la question, elle dit, est-ce que quelqu'un pense que c'est les anciens qui ont tué cette personne-là? C'est sûr que non. Qu'est-ce que te dit Rashi? En vérité, ce que les anciens vont dire dans le pshat, c'est qu'ils vont dire, on ne l'a pas laissé partir sans l'avoir accompagné. On avait les structures adéquates chez nous pour l'accueillir, pour lui donner à manger, pour lui permettre d'étudier, pour lui permettre de rester autant de temps qu'il vaut. Et si c'est passé ce qui s'est passé, c'est pas de notre faute. Spirituellement, ça veut dire quoi? Zekenecha Veshoftecha, les anciens de la ville, les Talmidei Chachamim, vont se lever, et ils vont venir, ils vont dire, quand on voit quelqu'un qui est loin du chemin de la Torah, c'est pas de notre faute. Alors, c'est toujours de notre faute, parce que toujours on a pu mieux faire. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est quoi, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, on l'a pas laissé partir. Écoutez bien, ça aussi, c'est très précis. Le Midrash te dit, pourquoi il dit, c'est pas de notre faute? On l'a pas laissé partir sans manger, on l'a pas laissé partir sans vêtements. C'est quoi la nourriture? C'est quoi les vêtements? La nourriture, c'est la Torah. Parce que c'est écrit dans Tehilim, Vetoratra Betor Merai. Cette Torah est dans mes entrailles. Parce que la Torah, c'est comme la nourriture. Quand on mange quelque chose, ça fait partie de notre corps. Quand on étudie quelque chose, ça fait partie de notre cerveau. Ça, c'est Mazon. Mazon, c'est quoi? Mazon, c'est la Torah. Ce qui rentre dans les intestins. C'est quoi les mitzvot? Les mitzvot, c'est comme des vêtements. Comme un vêtement, que tu peux mettre un vêtement, enlever un vêtement, remettre un vêtement. C'est ça, les mitzvot. Les mitzvot, ça protège la personne. Comme les vêtements qui protègent la personne. Alors, quand on voit cette personne qui est loin du chemin de la Torah, on va déranger les anciens. Et qu'est-ce qu'on va dire aux anciens? Les anciens vont dire, nous on assure que s'il est loin de la Torah, nous on a fait tout ce qui était en notre possible pour lui donner un bagage maximal de Torah et de mitzvot. Ça veut dire que tant que c'est pas le cas, c'est de notre faute. Et plus on est important, plus on a un poste de responsabilité, et plus c'est important. Ça c'est le sens profond de la paracha de la Egla Rufa. Maintenant, quel rapport avec la paracha de Youssef? Vous allez voir, c'est magnifique. Il dit comme ça. Yaakov, bien sûr, quand la dernière chose qu'il a étudié avec son fils, il savait pas que son fils allait partir, qu'il allait pas revenir. Parce que s'il le savait, il aurait dit ne part pas, c'est évident. Mais il y a des choses, comme c'est écrit dans la Gemara nous dit qu'il y a des fois des choses, des fois on dit des choses, on sait pas pourquoi. Et en vérité, plus tard, des années plus tard, il va s'avérer qu'en vérité ce qu'on avait dit, ça correspondait pile à la situation. Ça vous arrive des fois tu dis quelque chose, tu fais quelque chose, tu sais même pas pourquoi. D'accord? Et après, des fois, des années, des jours ou des mois plus tard, tu découvres, tu dis, ah, voilà pourquoi j'étais inspiré par ça. Et ben ça, on le retrouve très très fort chez les tzadikim. Que des fois, un tzadik te dit quelque chose, ni toi tu comprends pourquoi il te l'a dit, et ni lui comprend pourquoi il te l'a dit. Ben, il a été inspiré à ce moment-là. Son mazal, j'arrive, je termine avec la réponse, son mazal a été inspiré que il faut dire telle chose à telle personne maintenant. Pourquoi? J'en sais rien. Lui, il en sait rien. Moi, j'en sais rien. Ben, c'est exactement ce qui s'est passé. Yaakov, ici, bien sûr, ne sait pas que son fils doit partir. Mais son mazal le voit. Son mazal sent que c'est la dernière fois que je vois mon fils pour maintenant, pour plusieurs années, et je dois lui donner un message qui va lui permettre de tenir. Où va aller Yosef? Yaakov ne le sait pas, mais son mazal le sait. Le mazal de Yaakov le sait. Yosef va aller en Égypte. Yosef va aller en Égypte. L'Égypte, c'est la source de la Touma. C'est la source de l'impureté. Et il sait que c'est très très dur que Yosef, qui était toujours protégé dans le cocon familial, a priori, il y a vraiment très peu de chances qu'il va tenir en Égypte. Donc Yaakov ne le sait pas, ça, mais son mazal le sait. Donc Yaakov se dit, je dois lui donner une paracha, je dois lui donner des forces pour qu'il puisse tenir, même quand il sera très loin. Je dois lui donner la nourriture et les vêtements. On a dit, c'est quoi la nourriture et les vêtements? C'est la Torah et les mitzvot. Ça veut dire, je dois lui donner un bagage. C'est pas l'étude qu'on va étudier, c'est pas ça le plus important. C'est le message que je vais lui faire passer, qu'il doit toujours rester un bon juif, quoi qu'il arrive. Et ça, qu'est-ce que dit Yosef? Yosef, quand il envoie le message à son père, il lui dit, papa, je me rappelle de cette halakha. Quand on lit les mots du Midrash, c'est extraordinaire. Le Midrash te dit, comme ça, il te dit, papa, c'est ma mâche, les mots du Midrash, devant mes yeux, est toujours resté devant moi la paracha de la Egla Rufa pendant ses 21 ans. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette paracha? Devant ses yeux, il est toujours resté ça pendant 21 ans. Maintenant, on comprend. C'est quoi le message de la Egla Rufa? C'est qu'en vérité, il lui dit, papa, sans te rendre compte, tu m'as donné des forces. Toi, tu savais pas pourquoi. Ce cours-là, t'as mis le paquet. Le cours avant que je parte, t'as mis le paquet, tu m'as dit, mon fils, il faut toujours tenir, il faut être un bon juif, etc. Ni moi j'ai compris, ni toi t'as compris. Mais en vérité, papa, sache que dans cette paracha de Egla Rufa, tu as fait comme ces Zekenim et ces Shoftim, tu as fait comme ces anciens. Tu m'as donné la force pour tenir en Égypte, et si j'ai tenu, c'est grâce à toi. Voilà pourquoi Yaakov, quand il a vu le message, il a été rassuré. Il s'est dit, maintenant je comprends tout ce qui s'est passé. Je comprends pourquoi Akadosh Baruch Hu m'a inspiré de lui faire secours avant de partir et de mettre le paquet dans secours. Et je comprends que Yosef a compris le message, et pas seulement il a compris le message, Baruch Hashem, il n'est pas mort. Si je ne l'avais pas fait, il serait mort spirituellement. Halal Basadé. Il aurait été halal, ça veut dire il se serait vidé, Basadé dans le champ. Ça veut dire il est en dehors de la yeshiva, il a quitté la yeshiva, il serait mort. Maintenant, grâce à quoi il n'est pas mort? Grâce au fait que je l'ai accompagné avec mazon ou les vouches. Je l'ai accompagné avec de la nourriture et des vêtements. C'est ce qu'ils disent les anciens. Ils disent, on l'a pas laissé sans nourriture et sans vêtements. Ça veut dire que si on avait donné normalement la nourriture et les vêtements, il meurt pas. Il sait qu'il a tout ce qu'il faut. Eh ben, Yaakov est rassuré. Il dit, Baruch Hashem, mon fils est vivant matériellement. Ça, Baruch Hashem. Mais encore mieux, il est vivant spirituellement. Spirituellement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a gardé le mazon et les vouches que je lui donnais. Il a gardé la nourriture et les vêtements que je lui donnais. Il a gardé la Torah et les mitzvot que je lui donnais. Voilà pourquoi on comprend maintenant. Vatechi, Ruach Yaakov Aviyem. Quand Yaakov a entendu ça, tout de suite, Yaakov, il a revécu. Parce qu'il a compris que son fils était vivant, non seulement matériellement, mais aussi spirituellement. Donc avec ça, on comprend pourquoi Yaakov a choisi la parachute de la Egla Rufa. Donc on apprend beaucoup d'enseignements d'ici. Beaucoup d'enseignements on apprend d'ici. Mais un enseignement principal qu'on a ici, c'est que on doit savoir que des fois, on a un collègue, on a un ami, on a quelqu'un de la famille. Et des fois, on se dit, bon, c'est pas mon poste maintenant, c'est pas mon rôle d'aller voir pour le ramener à la Torah. Et ben des fois, on peut pas savoir. Des fois, une phrase qu'on va lui dire. Que nous, pour nous, on croit que c'est rien. J'ai dit une petite phrase. Mais en vérité, comme Yaakov a tzadik, Yaakov a vinou, qu'est-ce qu'on voit ici? Il a dit une phrase. Il a enseigné la paracha d'Egla Rufa. Lui, il savait même pas pourquoi il enseignait. Ni lui, il savait pourquoi il a parlé de ça. Ni Yosef savait pourquoi il a parlé de ça. Mais en vérité, en lui parlant de ça, il a fait passer le message à son fils que, mon fils, je suis avec toi, quoi qu'il arrive, et tiens fort, tiens bon. Eh ben, nous aussi. On doit savoir qu'on doit ramener les gens à la Torah, et même si des fois on croit que, qu'est-ce que je connais déjà pour ramener quelqu'un à la Torah, ben des fois un petit mot, une petite phrase, si c'est la bonne phrase et le bon mot qui est au bon moment, ça peut faire des merveilles, ça peut faire des miracles. Avec ça, on comprend pourquoi Yaakov a vu, a choisi la paracha de l'aigle en fois pour enseigner à son fils, et pourquoi son fils, grâce à Dieu, il a passé le message, il lui a dit, papa, j'ai tenu, je ne suis pas mort spirituellement parce que tu m'as donné Mazon et les Vouches, tu m'as donné la Torah et les Mitzvot. Voilà ce qu'on peut enseigner.
Pourquoi ne pas avoir dit à Il aurait pu dire à ses frères, je dirais à mon père pour preuve que je suis vivant, que la dernière paracha que vous avez dit, la dernière halakha, c'était sur la
ce que le rabbi explique, il a dit.
Non mais pourquoi vous faites cette histoire de Agalot qui fait rappeler. Il aurait pu dire à ses frères, dites à mon père que pour.
C'est ce que j'explique. C'est en réalité le message que vous voulez faire passer. D'abord Kadish, après je t'explique. C'est bon ? Oui, il a fait la mida ?
Non, non, c'est...
Ah, t'es sûr ? Alors c'est bon ? On peut y aller ? Amen. Amen. Amen.